France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Emmanuel Macron préfère l'état de droit et le respect à la brutalité. À Davos, le chef de l'État répond à Donald Trump sans jamais le citer. Nous retrouverons dans un instant Frédéric Seitz au Forum économique mondial. Sébastien Lecornu engage la responsabilité de son gouvernement sur la partie recette du budget. Le Premier ministre a officiellement rompu sa promesse de ne pas recourir à l'article 49.3 de la Constitution. Nous serons à l'Assemblée dans ce journal. Marine Le Pen, interrogée par la Cour d'appel de Paris dans son deuxième procès, la Cour a notamment examiné la période pendant laquelle le Front National avait besoin d'argent après une série de revers électoraux. Capgemini supprime environ 2400 emplois en France. Le géant des services informatiques invoque l'intelligence artificielle pour justifier ses réductions d'effectifs. Emmanuel Macron a-t-il acté une forme de rupture avec Donald Trump à Davos? Devant le Forum économique mondial, le chef de l'État n'a pas mâché ses mots pour répondre aux ambitions du président américain attendu demain en Suisse. Il juge inacceptable les droits de douane à 200% annoncés par Trump sur les vins et champagnes français, mesure de rétorsion américaine après les divergences diplomatiques avec Paris sur le Proche-Orient et le Groenland. On retrouve à Davos notre envoyé spécial Frédéric Seitz. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Frédéric, Emmanuel Macron a constellé son discours de pique en direction de Donald Trump.
Oui, sans jamais le citer, mais c'est bien le président américain qui a été ciblé par Emmanuel Macron. Inacceptable, les droits de douane utilisés comme un chantage, tonne le chef de l'État. Il appelle à refuser un monde régi par la loi du plus fort.
Let's not be divided.
Ne nous divisons pas. N'acceptons pas un ordre mondial qui serait dicté par ceux qui ont la plus grosse voix, le plus gros bâton, le plus gros je ne sais quoi. Ne perdons pas de temps avec des idées folles, n'ouvrons pas les boîtes de Pandore. Ce n'est pas le moment d'un nouvel impérialisme ou d'un nouveau colonialisme.
Et Emmanuel Macron appelle à la suppression des droits de douane devant près de 200 décideurs économiques qu'on imagine plutôt satisfaits car acquis au libre-échange et à la mondialisation.
Frédéric, devant ce parterre de décideurs économiques, Emmanuel Macron a aussi tenté de réhabiliter l'image de la France.
Oui, dans cette salle à Davos, il n'a échappé à personne l'instabilité gouvernementale en France, les budgets rejetés ou adoptés à coups de 49-3. Alors Emmanuel Macron, pour conjurer le pessimisme ambiant sur la France, se mue en représentant de commerce.
Nous avons une électricité compétitive et bas carbone. Nous avons un des écosystèmes les plus actifs sur l'intelligence artificielle, le quantique, la transition énergétique, etc.
Voilà, sus au déclinisme donc dans la bouche d'Emmanuel Macron. La France, en somme, c'est l'endroit où les règles du jeu ne changent pas, explique en substance le chef de l'État dans une dernière pique à l'Amérique de Trump.
Frédéric Seitz depuis le Forum économique mondial de Davos avec Julien Girard pour les moyens techniques. Et comme en écho au discours de fermeté d'Emmanuel Macron à Davos, le Parlement européen s'apprête à geler la ratification de l'accord commercial avec les États-Unis. Les principaux groupes politiques du Parlement ont acté ce gel aujourd'hui à Strasbourg avant un vote la semaine prochaine à Bruxelles. L'accord conclu l'été dernier prévoit des droits de douane à 15% pour les exportations européennes vers les États-Unis. Dans ce paysage géopolitique en pleine mutation, la Chine inquiète aussi les Occidentaux. Au Royaume-Uni, le gouvernement travailliste a approuvé aujourd'hui la construction d'une gigantesque ambassade chinoise à Londres, et cela malgré les critiques de certains députés britanniques et de Washington, car le site retenu, plus de 20 000 mètres carrés, se trouve à côté d'infrastructures de communication particulièrement sensibles. Gaëlle Joly nous appelle de Londres.
D'après les plans complets obtenus par le journal The Telegraph, Pékin prévoit de construire au sous-sol de sa nouvelle ambassade une pièce secrète située juste à proximité des câbles Internet qui relient la City à Canary Wharf, un accès direct à l'un des cœurs battants de l'économie mondiale qui pourrait être mis sur écoute. Le projet suscite l'inquiétude de la classe politique et des réfugiés chinois. Même Washington a tiré la sonnette d'alarme. Mais le renseignement intérieur britannique, lui, se félicite de cette méga-installation qui permettra de regrouper toutes les activités chinoises en un seul site plus facile à surveiller et ajoute que la circulation des câbles pourra être déviée. Des sources au sein du MI5 rappellent que les dernières tentatives d'ingérence chinoise au sein de Westminster ont d'ailleurs été toutes menées hors ambassade et montrent que Pékin mène la plus grande partie de ses opérations d'espionnage directement depuis la Chine.
Il s'était résigné hier à recourir au 49-3 pour sortir de l'impasse budgétaire, à regret et avec amertume, selon ses mots. Sébastien Lecornu est passé à la pratique cet après-midi à l'Assemblée en engageant la responsabilité de son gouvernement. Le Premier ministre a de nouveau expliqué pourquoi il s'était dédié. La faute, selon lui, au blocage orchestré par la France insoumise et le Rassemblement national.
Les choses, vous le savez, sont désormais bloquées. Le texte n'est plus votable, quelles que soient les configurations, quelles que soient les circonstances. Or, nous considérons que la France doit avoir un budget. Le Parlement, ne pouvant pas prendre sa responsabilité jusqu'au bout que de donner un budget à la nation à cause, malheureusement, d'agissements sur différents groupes liés à l'action politique de différents groupes politiques ici, qui devront en rendre compte devant les Françaises et les Français et devant l'histoire, le gouvernement engage sa responsabilité sur la partie 1 des recettes du projet de loi de finances pour 2026.
À Sébastien Lecornu à la tribune de l'Assemblée, l'Assemblée où l'on retrouve Adrien Toffolet. Bonsoir.
Bonsoir.
Adrien, les groupes parlementaires accusés de bloquer le débat budgétaire ont-ils répondu au Premier ministre ?
Oui, on ne peut pas dire que l'intervention est plus au député LFI de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel.
À l'escroquerie qui est ce budget dans sa globalité. Une fois de plus, dans son discours à l'instant, Monsieur Lecornu vient d'ajouter une brutalité toute trumpiste. Il a accusé les oppositions de traîtres, de bloqueurs. Il les a accusés de saboteurs. Et là, il vient d'expliquer qu'on aurait des comptes à rendre aux Français.
Ils ont donc immédiatement déposé une première motion de censure avec le soutien des groupes écologistes et communistes et tous appellent les députés socialistes à ne pas suivre la consigne de leur groupe qui a décidé de ne pas censurer le gouvernement. Des socialistes qui se font berner, estime le député Génération des Yvelines, Benjamin Lucas.
Si nos amis socialistes ont envie de croire au Père Noël au mois de janvier, libre à eux, mais nous avons écouté attentivement ce qu'a dit le Premier ministre dans sa déclaration. Ce qu'il donne d'une main, il va le reprendre de l'autre, puisqu'il refuse tout bouger sur la question des recettes. Monsieur Lecornu n'a pas ouvert la porte là-dessus. Et donc, les quelques timides annonces qu'il fait de ce qui apparaît comme des concessions, en réalité, il va le reprendre ailleurs. Sur le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires, sur les services publics.
D'autant que le texte budgétaire final était encore en préparation à Matignon et Bercy toute la journée, donc aucun député ne sait ce que contient précisément cette toute dernière copie. Le Rassemblement national, qui dépose également une motion de censure, ne manque pas de critiquer ce qui prévoit déjà de sauver le gouvernement. Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme.
Un certain nombre de députés aujourd'hui prennent des positions pour ce budget sans savoir l'état du déficit des impôts et des dépenses, qui est complètement absurde. Nous, on prend position à l'Assemblée nationale parce qu'on est contre les hausses d'impôts qui sont connues. Donc à la limite, on n'a pas besoin d'attendre le reste. Mais ceux qui prennent position sans savoir le reste, en particulier les Républicains, c'est complètement surréaliste. Ça prouve qu'en fait, ils sont juste là pour sauver Lecornu, quoi qu'il y ait dans la copie en fait.
Pire, déplorait tout à l'heure une écologiste, on va probablement voter la première motion de censure sans avoir connaissance de l'intégralité du texte de budget.
Adrien Toffolet en direct du Palais Bourbon avec Romain Lucquens pour les moyens techniques. Et pendant que l'Assemblée tente laborieusement d'en finir avec le budget, le Sénat, lui, se penche sur la réforme de la fin de vie. Les sénateurs ont entamé cet après-midi l'examen des deux textes sur les soins palliatifs et l'aide à mourir. Adoptés à l'Assemblée, ils ont été largement modifiés en commission sénatoriale. Le droit à l'aide à mourir, voté par les députés, est ainsi devenu une assistance médicale à mourir, bien plus encadrée, bien trop même, selon le porteur de la loi, Olivier Falorni, député rattaché au groupe Modem.
La première chose que je constate, c'est d'abord que les sénateurs ont acté le principe d'une aide active à mourir. Donc ça, c'est un point qui est quand même notable. Ceci étant dit, à travers ce semblant d'ouverture, il y a une fermeture à double tour, parce que finalement, le texte est vidé de son sens. Donc à la fois, les sénateurs n'ont pas voulu se mettre à rebours de l'opinion publique, et quelque part tant mieux. En revanche, il y a une forme d'hypocrisie en disant, voyez, on n'est pas aussi contre que l'on pouvait craindre, mais subrepticement, par le biais d'amendements, on rend ce droit inopérant, ineffectif, et on aboutit à faire une loi pour rien ou pour pas grand-chose. Mais pour moi, c'est pas une surprise. Il était évident qu'il n'y aurait pas d'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et tout le monde sait qu'il y a dans nos institutions une règle qui veut que lorsque nos deux chambres sont en désaccord, c'est évidemment l'Assemblée nationale qui a le dernier mot puisque nous sommes élus par les citoyens.
Le député Olivier Falorni répondait à Rosalie Lafarge. La Cour d'appel de Paris a commencé aujourd'hui à interroger Marine Le Pen dans le deuxième procès des assistants parlementaires européens du Front National. Interrogatoire crucial pour la chef de file des députés RN qui espère faire tomber l'inéligibilité immédiate à laquelle elle a été condamnée en première instance. La justice lui reproche, ainsi qu'à 10 autres cadres, d'avoir payé des salariés du parti avec l'argent du Parlement européen. C'était entre 2004 et 2016 et le Front National était alors en difficulté financière après de mauvais résultats électoraux. On retrouve à l'ancien palais de justice de Paris, Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir.
Anne, la Cour d'appel s'est beaucoup intéressée à la période où le FN n'avait pas de groupe parlementaire à l'Assemblée.
Oui, on parle de la période qui va de 2004 à 2014 et qui comprend deux législatures. Le FN était alors passé de 7 à 3 eurodéputés. Un système de mutualisation des assistants parlementaires s'était mis en place pour maximiser les moyens. Ces assistants travaillaient pour plusieurs eurodéputés, ce qui a fait dire d'ailleurs à l'un d'entre eux la semaine dernière, Fernand Le Rachinel, que cela l'avait entravé dans son travail parlementaire. Interrogée sur ce fonctionnement, Marine Le Pen botte en touche. Je note que sur toute cette période de 10 ans, le Parlement européen ne nous a pas conseillé ni reproché d'avoir eu des assistants qui travaillaient avec plusieurs députés. Ces faits, vous les reconnaissez ? Interroge Michel Agy, la présidente de la Cour d'appel. Marine Le Pen se contente de répondre « C'est fait, c'est une succession de cas qui sont différents les uns des autres ». Elle indique aussi que c'est son père, Jean-Marie Le Pen, qui décidait de ça jusqu'en 2014, même si elle était devenue présidente du parti en 2011. Michel Agy poursuit « Quand Bruno Gollnisch dit qu'il est un homme compromis, que faut-il entendre ? Eh bien que c'était compliqué de dire non à Jean-Marie Le Pen, précise sa fille. S'ensuit de longs développements autour du tiers payant, le mandataire en charge de payer tous les assistants des eurodéputés. Beaucoup de mails ou de SMS accablants sont cités, et notamment ce message destiné à Marine Le Pen. Trop de monde sur ces contrats, il faudrait que certains retournent sur les salaires du front. Marine Le Pen dénonce ce vocabulaire étonnant qui rend tout suspect selon elle. Et elle rejette cette fois la faute sur ce mandataire Charles Van Hout. Pour rappel, Stanislas, ce comptable fiscaliste d'origine belge n'a pas fait appel de son jugement en première instance.
Anne Fauquemberg en direct de la Cour d'appel de Paris avec Raymond Albouy pour les moyens techniques. Marine Le Pen qui a été relaxée aujourd'hui dans une autre affaire, une ancienne étudiante de l'IEP de Bordeaux qui l'accusait d'injure publique pour l'avoir associée à l'islam radical alors qu'elle était voilée. Le tribunal correctionnel de Paris n'a pas retenu le caractère injurieux de ses propos. C'est l'un des points chauds des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Lyon, 520 000 habitants, la troisième ville de France derrière Paris et Marseille, avec un choc au sommet entre le maire sortant, l'écologiste Grégory Doucet, et Jean-Michel Aulas, l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais, le club de foot local. L'homme d'affaires est soutenu par la droite et les macronistes autour des deux favoris des sondages. Des candidatures qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Le reportage à Lyon de Mathilde Imberti avec Christophe Vincent.
On vient le voir à propos des prochaines élections municipales.
Ne délaissez personne ni aucun quartier. Grégory Doucet, l'actuel maire, candidat Union de la gauche et écologiste, se plie au porte-à-porte.
J'ai bossé 20 ans dans l'humanitaire auparavant. J'ai décidé de consacrer ma vie au service des autres. Donc quand j'ai été maire, là, j'ai été habité des mêmes ambitions. Moi, ma priorité, c'est de partir des préoccupations des gens. Sur ce mandat, on a commencé la transformation de la ville, l'adaptation aux nouvelles conditions climatiques, mais pas que. On a aussi investi considérablement sur le social, sur l'éducation, avec tout ce qu'on a pu faire dans les écoles. Sur ce mandat, on a fait par exemple l'encadrement des loyers, mais là on met en place une garantie universelle municipale pour les gens qui ont besoin de présenter un garant, une assurance habitation municipale. Et l'exercice du porte-à-porte, c'est à la fois on parle bilan et à la fois en perspective.
Enchanté, c'est jeune, c'est bien, félicitations.
Merci, c'est gentil.
Du terrain aussi, ici au marché, pour la députée Anaïs Belloissa-Cherifi, 30 ans, la France insoumise.
Pour faire en sorte d'avoir un programme au plus proche de la réalité et des aspirations populaires. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la question du logement, à l'heure où certains candidats veulent clairement, eux, ne plus mettre l'encadrement des loyers. Et moi, maire de Lyon, il n'y a aucune spéculation immobilière qui sera prédominante. Il y a aussi la question de la santé. On va ouvrir des centres de santé municipaux dans lesquels il n'y aura pas de dépassement d'honoraires. Il y a aussi la question de l'alimentation à l'école pour les enfants d'avoir un petit déjeuner gratuit et la cantine gratuite.
Tout à fait à l'autre bout du spectre, Alexandre Dupalet, candidat ciotiste et Rassemblement National.
La seule droite, puisqu'on voit que M. Aulas va de plus en plus vers la gauche et maintenant il s'accuse mutuellement avec M. Doucet de zoler les mesures de gratuité, de tout gratuit, de cantine gratuite. Nous défendrons toujours le sérieux budgétaire et économique, sans méga travaux, sans méga tunnels, sans méga forêts. Ça, c'est des méga impôts.
Classé trop à gauche ou trop à droite, selon qui parle. Par quoi est guidé Jean-Michel Aulas, 76 ans, ancien patron de l'OL?
À partir du moment où certains me trouvent trop à droite et d'autres trop à gauche, ça veut dire que je suis avec un programme de croissance libérale qui permet de trouver les ressources dont on a besoin pour avoir une véritable politique sociale. Il faut aussi, en matière de sécurité, bien apporter de la sécurité aux Lyonnais qui n'en peuvent plus de vivre dans la peur. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de problème de notoriété, mais il faut aussi établir un programme. On essaye d'apporter des solutions qui sont des solutions de bon sens. Mon parti à moi, c'est Lyon.
Et ce sont bien tous les partis du centre et de la droite, de la Macronie aux Républicains de Laurent Wauquiez, qui portent sa campagne. Avec lui, l'espoir de reconquérir Lyon, perdu par la droite après Raymond Barre en 2001.
Mathilde Aberti a retrouvé tout à l'heure sur franceculture.fr la liste complète des candidats déclarés à ce jour à la mairie de Lyon. Toujours au chapitre des municipales, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a finalement décidé d'apporter son soutien à Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste qui brigue sa succession. Soutien timide à son ex-premier adjoint. « J'ai toujours dit que je voterai pour la gauche et celui qui conduit la liste, c'est Emmanuel Grégoire », déclare Anne Hidalgo dans un entretien au journal Les Échos. « Mais attention, une alliance avec la France insoumise, c'est sans moi », ajoute la maire de Paris. Capgemini, le géant français des services informatiques, envisage de supprimer jusqu'à 2400 postes en France, soit environ 7% des effectifs actuels du groupe qui emploie 35 000 personnes dans notre pays. Il ne s'agit pas de licenciement puisque les suppressions de postes donneront lieu à des reclassements et des départs volontaires. Capgemini invoque notamment la révolution de l'intelligence artificielle, Annabelle Grolier.
Capgemini n'est pas un groupe en difficulté. Certes, en France, tout le secteur des services numériques pâtit de l'instabilité politique et géopolitique, une morosité qui pèse sur l'activité, les clients ayant tendance à différer leurs grands projets numériques. Pour autant, un nombre de suppressions de postes d'une telle ampleur, environ 7% des effectifs, ne paraît pas justifié, estime Yacine Bagou, délégué CGT chez Capgemini.
On a effectivement constaté une baisse d'activité dans notre secteur depuis un ou deux ans. Mais pour autant, la direction a versé l'année dernière 1,5 milliard de bénéfices à ses actionnaires et 900 millions de rachats d'actions. Donc on ne comprend pas forcément d'où vient ce besoin d'aller supprimer des postes. C'est vraiment une décision, à notre sens, qui sert surtout à rassurer les marchés et à venir donner un signal dans le sens que Capgemini fait ce qu'il faut pour protéger le dividende de l'actionnaire.
Ce plan est uniquement basé sur le volontariat, affirme un porte-parole de Capgemini. Il doit permettre de répondre aux challenges et opportunités créées par l'accélération des mutations technologiques. Interrogé sur la place de l'intelligence artificielle dans cette décision, Capgemini assure que le plan n'a pas de lien direct.
Explication signée Annabelle Grolier. Le modèle économique de la presse d'information est en danger. Voilà les conclusions d'une étude dévoilée hier par le ministère de la Culture et l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel. Étude qu'avaient sollicité les états généraux de l'information en 2024. Le cabinet de conseil PMP Stratégie l'a réalisé. Il dresse un panorama économique de l'activité du secteur de l'information en France. Un modèle Pierre Ropert fortement impacté par le numérique et l'IA.
Les médias traditionnels restent la principale source d'information des Français, mais leurs revenus, la publicité, les abonnements et les dotations publiques sont en baisse ou menacés. Résultat, plus de la moitié des médias interrogés sont déficitaires. Autre inquiétude, la faible viabilité des modèles économiques des médias. 4 médias sur 5 ont aujourd'hui une marge opérationnelle inférieure à 6%. Or, ces marges, justement, sont de plus en plus impactées par l'essor du numérique. Les plateformes en ligne captent une grande partie du marché publicitaire. Surtout, elles s'approprient la valeur ajoutée des informations produites par les médias sans pour autant les compenser de façon proportionnée. Cette tendance s'est accélérée avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, un Français sur deux de moins de 34 ans utilise régulièrement des outils d'IA conversationnelle pour s'informer et l'étude de préciser que l'accès démultiplié à une information gratuite en apparence a contribué à invisibiliser le coût de production de l'information. Conséquence, les Français rechignent de plus en plus à payer pour de l'information à l'heure où celle-ci coûte de plus en plus cher. En 2023, 2024. Ainsi, le coût de production de l'information est estimé à 2,9 milliards d'euros, un chiffre dû à hauteur de 70% à la masse salariale et donc difficilement compressible pour maintenir une information de qualité. Les médias doivent aujourd'hui diversifier leurs sources de revenus. Parmi les pistes à explorer, le recours à l'IA générative pour obtenir des gains de productivité, les mêmes IA qui, paradoxalement, réduisent le trafic vers les sites d'information, d'où la nécessité, conclut l'étude, d'accompagner la potentielle reconfiguration du secteur et de fournir des repères fiables pour orienter les politiques publiques.
Pierre Aubert, merci. Le temps demain, perturbé et venteux sur l'ouest, le Finistère et le Morbihan sont en vigilance orange, pluie, inondation et crue. Ce ciel le pluvieux ira des Pays de la Loire à la Basse-Normandie. Sur les autres régions, un temps plus calme, parfois nuageux. Les températures minimales iront de moins 3 à 8 degrés en général. L'après-midi, il fera entre 8 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique Jean-Guy Lamège.